Voilà, et eh bien écoutez, c'est agréable de se retrouver avec vous ce matin pour ce temps de culte, ce temps d'enseignement aussi. Merci Christian pour le temps que tu me donnes. Ça permettra de me poser. Je vois qu'il y en a qui ont l'air un petit peu fatigués ce matin. Hein, ouais, il y en a qui sont. Je vais vous demander de vous lever. Tiens, levez-vous là, quelques secondes simplement là. Hein? Voilà, bougez-vous un petit peu si vous arrivez toutefois à vous lever. Hein, bougez un petit peu. Voilà, secouez pas trop fort votre voisin. Étendre. Fred, il est un peu fatigué ce matin, je crois. Voilà, c'est bon, vous pouvez prendre place si vous voulez. On se demande pourquoi. En réfléchissant à ce message que j'allais apporter ce matin, il y a plusieurs idées qui se sont télescopées dans mon esprit et il y avait tellement de choses que j'ai à cœur de transmettre. Et puis il y a une pensée un petit peu qui s'est imposée et je me suis dit ça serait bien de poursuivre ce que j'ai entamé la fois dernière lorsque j'étais là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents au mois de mai, j'avais parlé de la question du leadership. Et j'avais précisé que cette question du leadership m'avait été inspirée un petit peu parce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre Église, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de réflexion où nous réfléchissons, nous prions aussi pour essayer de trouver de nouveaux leaders, de nouveaux anciens, mais des personnes aussi qui vont pouvoir s'engager dans de nouveaux ministères. Pourquoi ? Parce que nous avons une Église qui grandit, une Église qui se développe, une Église aussi qui sans cesse a de nouveaux besoins. On a pris pas mal de temps dans notre Église pour réfléchir à cela, surtout pour prier. Et puis, je me suis dit, ça serait bien d'apporter quelques éléments de réponse aussi par rapport à toute cette question du leadership. Je me suis senti toute la liberté de le faire, et je me sens aussi la liberté de le faire ce matin ou de poursuivre sur ce sujet, étant donné, comme je disais la fois dernière et je le redis ce matin, que je ne suis pas en campagne. Et donc, par conséquent, je me sens une certaine liberté pour aborder ces questions de leadership. Avant de vous préciser, d'expliciter un petit peu sur quoi j'aimerais méditer ce matin par rapport à cette grande question du leadership, je vous propose juste de faire un petit résumé de ce qu'on a vu la fois dernière, parce que j'imagine qu'entre-temps, vous avez oublié ce que j'ai dit. On apprend normalement en communication que pour que quelque chose s'ancre bien en nous, nous devons l'entendre au moins 7 fois. Et chaque fois, nous allons désapprendre ou oublier, et puis c'est seulement après la 7e ou 8e fois qu'enfin nous allons retenir la quintessence, c'est-à-dire l'essentiel. Donc je vais vous refaire le message de la dernière fois, ce matin, et puis 5 fois encore après. Non, c'est pas vrai. Je vous propose juste un résumé par rapport à ce que j'ai dit la fois dernière. Et dans un premier temps, j'aimerais souligner ce que j'entends par ce terme de « leader ». Parce que c'est important, certains vous étiez là, d'autres vous n'étiez pas présents. Alors qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de ce terme de leader ? Vous savez que parfois, aujourd'hui dans l'Église, c'est un terme qui n'a pas toujours une très bonne connotation. Certains l'utilisent tout le temps et puis d'autres ne l'utilisent jamais. Parfois, on oppose même le leader au serviteur, alors que dans la Bible, normalement, tout leader est serviteur. Et le serviteur et le leader par excellence, nous l'avions dit la fois précédente, c'est le Christ. Et je m'étais inspiré d'une définition d'un des principaux responsables ou un homme qui a beaucoup travaillé, un chrétien, John Maxwell, qui a beaucoup travaillé la question du leadership et qui dit ceci. Il dit qu'un leader, c'est une personne qui a développé suffisamment son don ou alors ses dons pour que son entourage proche ou lointain en soit bénéficiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, déjà, ça implique de prendre conscience que nous avons des dons, des capacités, des talents, ou des dons spirituels que le Seigneur nous a donnés. Nous avons pris conscience de ces dons, ensuite nous les avons travaillés, nous les développons, et au fur et à mesure que nous développons ces dons, qu'est-ce qui se passe ? Ça va faire du bien aux autres. Les autres vont pouvoir bénéficier de ce don. Par exemple, si vous enseignez les enfants à l'école du dimanche et que vous avez un don, des capacités pour cela, les enfants vont être contents. Moi, j'ai parfois mon petit dernier qui rentre à la maison, qui me dit « c'était super l'école du dimanche », eh bien parce que non seulement la personne qui a donné l'enseignement a transmis quelque chose qui était intéressant, qui a intéressé les enfants, mais aussi parce que cette personne a un don pour cela et qu'elle a suffisamment travaillé son don pour que les autres en bénéficient. Et le principe, c'est que plus nous allons travailler nos dons, et plus notre entourage va pouvoir en bénéficier. Autrement dit, on n'est pas leader pour soi-même. On est toujours leader pour d'autres personnes qui vont pouvoir être au bénéfice de ce que le Seigneur nous a donné. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui va avoir de l'influence, qui a cette capacité à délivrer un message, à donner envie aux autres de se mettre en action. C'est quelqu'un qui va inspirer. Retenez simplement cette première idée que j'avais développée, que je résume. Un leader, c'est donc quelqu'un qui a suffisamment développé ses dons pour les mettre au service des autres. Ça ne veut pas dire qu'il a terminé. En réalité, nous n'avons jamais fini. Nous avons toujours à apprendre à développer nos dons. Donc ça, c'était la première pensée. Et puis la deuxième pensée que j'avais donnée par rapport à ce leader, c'est que nous sommes tous des leaders en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas tous des leaders dans le sens que nous sommes tous appelés à devenir des enseignants ou des anciens ou avoir une influence qui va pouvoir impacter des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes, mais tous, nous avons un leadership, nous avons une capacité à influencer les autres. Et généralement, cette capacité à influencer les autres, c'est quelque chose qui vient lorsqu'on travaille sur soi-même, mais c'est aussi un petit peu un charisme que Dieu donne. Et nous avons tous cela, et certains l'ont plus que d'autres. Il suffit de regarder des enfants qui jouent entre eux, par exemple, et vous allez voir qu'il y a parfois des profils qui émergent. Vous allez voir qu'il y a des leaders naturels là-dedans, par exemple. Et puis d'autres qui parfois sont un peu moins leaders que les autres, mais s'ils prennent conscience de leur don et qu'ils travaillent dessus, ils vont pouvoir aussi émerger et développer ce qu'on appelle un leadership, c'est-à-dire une capacité à influencer les autres. Donc quand on parle de leader, on ne parle pas de pasteur, on ne parle pas de chef d'entreprise, on ne parle pas d'évangéliste, on ne parle pas d'ancien, on parle de cette capacité à influencer les autres, et ça touche tous les chrétiens. Puisque tous, là où nous sommes, nous avons une sphère d'influence et une capacité à influencer naturellement les autres. Tout simplement grâce au don que le Seigneur a déposé en nous. Et la fois dernière, j'insistais ou je développais trois critères du leader pour nous aider à choisir un leader, puisque le thème que j'avais abordé la dernière fois, c'était trois critères pour choisir un leader. Le premier critère, c'est d'être serviteur, à savoir que nous nous mettons au service des autres. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes ou parce que ça nous plaît, mais parce que Dieu nous a donné quelque chose et nous souhaitons que les autres puissent en bénéficier. Deuxième critère, c'était l'humilité. Et j'ai développé trois aspects de l'humilité. D'abord, la soumission. Soumission à Dieu et puis aussi soumission les uns aux autres. Et j'ai expliqué que si on ne sait pas se soumettre aux autres, en réalité, on ne sait pas se soumettre à Dieu. Puisque dire que j'obéis à Dieu, c'est facile. Dieu, on ne le voit pas. Personne ne le voit. Donc, je peux lui faire dire n'importe quoi. Par contre, se soumettre aux autres, c'est plus difficile. Or, si je suis soumis aux autres, je serai soumis aux autorités et je serai aussi soumis aux autorités spirituelles. Ce qui ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec tout. Donc ça, c'était un des aspects de l'humilité, à savoir la soumission. Ensuite, j'ai insisté sur le fait d'être enseignable. Et j'ai dit que quelqu'un qui n'est pas enseignable, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec cette personne-là. Nous, dans notre association, on ne va pas regarder les diplômes d'une personne, on ne va pas regarder son pédigré, savoir si elle a prêché devant 50 000 ou 200 000 personnes. Si la personne a un sale caractère et qu'elle n'est pas du tout enseignable et qu'elle n'est pas prête à se remettre en question ou qu'elle n'est pas dans cette dynamique-là, qu'elle ait des difficultés à le faire, c'est une chose, mais si elle n'est pas dans cette dynamique-là, on ne donnera pas suite. Parce que vous ne pouvez rien faire avec quelqu'un qui n'est pas prêt à se laisser enseigner. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours changer, n'est-ce pas ? Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir évoluer, et ça fait partie de la grâce du Seigneur. Et puis, le troisième aspect de l'humilité que j'avais développé, eh bien, c'était la redevabilité. Et le troisième critère, à savoir que le leader, c'est quelqu'un qui voit le potentiel aussi chez les autres. Alors que souvent, d'autres personnes ne voient pas ce potentiel qui est présent. Alors ce matin, j'aimerais poursuivre sur cette question du leadership et j'ai intitulé mon message 3 leçons à retenir du leadership Non, René, tu vois, René, déjà comme ça, il respire, mais alors là, c'était fini, quoi. Il était couché sous la chaise à la fin du message. Trois leçons à retenir du leadership de Moïse. Ce matin, nous allons parler un petit peu de Moïse et essayer de nous inspirer, dans une certaine mesure, de sa capacité à influencer les autres. Avant de lire un passage ou deux passages bibliques, peut-être juste souligner dans un premier temps que Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est un personnage hors norme. Moïse, c'est quelqu'un qui a eu une influence considérable. Moïse, c'est le médiateur de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. L'ancienne alliance, c'est Moïse. Je ne sais pas si vous imaginez, le médiateur, c'est-à-dire c'est celui qui fait le lien entre les hommes et entre Dieu. C'est le seul qui, dans toute la Bible, voyait Dieu face à face, sans mourir. Et quand il voyait Dieu, il ressortait, et à un moment donné, on devait même mettre un voile sur son visage, tellement la gloire de Dieu était puissante. À savoir que ceux qui étaient là ne pouvaient pas supporter, ne serait-ce que la présence de Moïse, ou plutôt la présence de Dieu au travers de Moïse. Donc Moïse, c'est quelqu'un d'influent. Et puis en même temps, ce qui est beau avec Moïse, et ça nous touche, et ça nous permet de nous voir, de nous retrouver en lui, c'est que Moïse était aussi un homme qui hésite, un homme qui va commettre des erreurs, tuer un homme quand même. Un homme qui, à un moment donné, va se retrouver dans un contexte totalement païen, idolâtre. Un homme qui doutait de ses capacités, qui pensait qu'il n'était pas capable de répondre à la mission, à la vision que le Seigneur lui a donnée. Donc, à la fois un homme d'exception, un homme aussi qui, on le voit, va évoluer dans son leadership. À la fin, il ne sera pas du tout ce qu'il était au départ. Il s'est laissé transformer par le Seigneur. Il s'est laissé conseiller aussi, comme nous allons le voir ce matin, par d'autres personnes. Un homme qui a eu une capacité d'influence extraordinaire. Et puis en même temps aussi un homme qui fait des erreurs, tous les êtres humains comme vous et moi. Donc dans une certaine mesure, nous pouvons aussi nous retrouver, ou en tout cas apprendre quelques petites leçons de sa capacité à influencer les autres. Et ce matin, j'aimerais me concentrer sur trois leçons. En réalité, il y en aurait des dizaines, puisque vous avez des dizaines de pages qui ont d'abord été écrites par Moïse, et puis ensuite, parce que vous avez toutes sortes d'épisodes qui nous permettent de retirer des leçons de sa capacité à influencer les autres. Mais on va se concentrer sur trois aspects et voir un petit peu ce que ça nous dit aujourd'hui par rapport à nous et par rapport à notre capacité à influencer les autres. Deux textes de la Bible que je vais lire. Le premier, je vais simplement le citer, puisqu'il s'agit d'un verset. C'est le livre des Proverbes, 29, au verset 18, où il nous est dit ceci: « Quand il n'y a plus de vision, le peuple est incontrôlable. » Ou alors, quand il n'y a plus de vision, littéralement, le peuple est sans frein. Passage que nous connaissons bien, que nous citons parfois pour souligner l'importance d'avoir une vision, et nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Et puis un deuxième passage qu'on trouve, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, où son beau-père, le beau-père de Moïse, qui était, pense-t-on, un homme qui reconnaissait Dieu comme étant le vrai Dieu, mais qui en réalité était un païen, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, va venir voir son gendre et va voir un petit peu comment il fonctionne, et il va lui donner une leçon magistrale de leadership. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Moïse va se laisser dire quelque chose par un homme qui n'est pas dans la foi. On verra un petit peu ce que ça a à nous enseigner par rapport à nous dans quelques instants. Donc on prend dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, les versets 14 à 24. Verset 13 déjà. Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tenaient devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit: « Mais pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ?» Ça y est, je suis pauvre. C'est trop. « Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ? Moïse lui répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser. Toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. » Tu ne peux pas l'accomplir seul. Verset 19. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner, que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptible, tu les placeras à la tête du peuple par, comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Ils seront en tout temps et à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux. Trois critères donc, ou trois leçons à retenir de la capacité à influencer, de la capacité à diriger, ou du leadership plutôt de Moïse. Le premier point que j'aimerais mentionner ici, il n'apparaît pas directement dans ce passage que je viens de lire, mais il apparaît plutôt dans le premier texte que j'ai cité, à savoir ce texte qu'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 29 et au verset 18, c'est la vision. Faut-il encore souligner que Moïse était un homme de vision ? Cette vision, apparemment, il l'a eue très tôt. Lorsqu'il était en Égypte déjà, à un moment donné, quand il a vu combien son peuple souffrait, lorsqu'il a découvert aussi probablement pendant toute cette période quelles étaient ses origines, très vite, il a eu à cœur de libérer son peuple. Le problème, c'est que ce n'était pas le temps de Dieu, que Dieu ne lui avait pas parlé, et surtout, Dieu ne lui avait pas encore donné et précisé de manière plus forte cette vision. Et c'est seulement lorsqu'il va se retrouver en train de paître un troupeau, et certainement qu'il pensait que tout était terminé, qu'il allait terminer ainsi sa vie, que Dieu va lui apparaître dans le buisson ardent, et c'est là que Dieu va lui communiquer sa vision. C'est là qu'il va y avoir un cœur à cœur avec Dieu, et que Dieu va lui parler. Et de là, nous pouvons en déduire que la vision, généralement, pour le chrétien, elle vient de quoi ? Elle vient surtout de notre relation avec le Seigneur. C'est quand nous sommes proches de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, que le Seigneur nous parle. Alors, il ne nous parle pas de manière audible, même si ça peut arriver, mais souvent, c'est là qu'il va déposer progressivement et préciser des choses en nous et nous communiquer progressivement sa vision et nous donner envie d'aller dans une direction, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour l'Église ou que ce soit pour un service que le Seigneur va nous mettre à cœur. Et là, c'est dans cette proximité avec le Seigneur que le Seigneur communique à Moïse sa vision. Et sa vision, eh bien, c'est ce qu'il avait déjà ressenti auparavant, lorsque ce n'était pas encore le moment, c'était de libérer son peuple. Non seulement de libérer son peuple, mais de libérer son peuple aussi avec les moyens que Dieu avait choisis. Et de là, nous pouvons en déduire que la vision, c'est quelque chose, nous le savons, nous le disons souvent, mais est-ce que nous le vivons ? Et je me pose à moi-même la question en premier. La vision, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous voulez créer des problèmes, si vous vouliez qu'il y ait des frustrations, des déceptions, des divisions, que ce soit dans une entreprise, dans une association, dans une organisation, ne clarifiez pas la vision. Ne dites pas pourquoi vous faites les choses. Laissez la possibilité, comme on le voit parfois dans certaines organisations, je ne parle pas pour ici hein, ou pour ailleurs, mais je dis simplement, comme j'ai pu le constater, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat, ne faites pas comme on le peut le voir dans certains endroits, eh bien, ne clarifiez pas les choses. Laissez la possibilité à chacun de faire et d'agir comme il le veut. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous mettez 5 personnes ensemble, vous mettez 10 personnes ensemble, et qu'est-ce qui se passe ? Chacun va venir avec une vision différente. Moi, je vais avoir une vision, Fred va avoir une autre vision, Lucille va avoir une autre vision, et ainsi de suite. Chacun va avoir une autre vision. Et pourquoi ? Parce que nous avons parfois des appels différents, parce que nous avons des choses, des manières de voir les choses différentes, et il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Mais si on veut aller dans une direction, il faut qu'il y ait un focus qui soit là. Il y a un proverbe chinois qui dit « Comment saurons-nous si nous sommes arrivés si nous ne savons pas où nous allons ?» Et parfois, dans bien des communautés où je vais, les gens, ils ne savent pas où ils vont. Parfois, je vais voir les leaders de l'Église et je leur dis « Partagez-moi votre vision, ça m'intéresse. » Et vous savez ce qu'ils vont faire, les gens ? La plupart du temps, ils vont me partager les moyens. Ils vont me parler des moyens. Ils confondent la vision et les moyens. Les moyens, c'est ce qui permet de réaliser la vision. Alors, ils vont me dire « Eh ben, nous organisons tel projet d'évangélisation. Nous organisons telle action dans tel machin. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et puis, ils vont me parler de tout ce qu'ils ont fait. Et quand ils vous parlent de tout ce qu'ils ont fait, vous êtes « Waouh !» Vous êtes bluffé, ou quelqu'un qui vous dit tout ce qu'il fait. C'est impressionnant. C'est fou. Mais où est ta vision ? Qui est-ce que tu cherches à atteindre ? Quel est l'objectif final de tout cela ? Et puis finalement, quand vous posez simplement cette question, vous allez voir qu'un coup on tire à gauche, un coup on tire à droite, on tire derrière, on tire devant. Et quand on se concentre beaucoup sur les moyens, qu'est-ce qui se passe ? On dépense énormément d'énergie. Et ça nous coûte beaucoup, parfois en termes d'argent, parfois aussi en termes de mobilisation, parce qu'on dépense beaucoup, et c'est bien dans un sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de moyens, mais d'abord, quelle est la vision qui sous-tend tout cela ? Moïse avait une vision, et cette vision, elle a mûri pendant des années. Bien sûr, il l'a reçue au Mont Sinaï, dans le buisson ardent, mais elle était déjà là présente dans son cœur. Cette vision, elle a dû mourir aussi, parce qu'elle était tellement grande et il n'avait pas compris encore des choses qu'il a dû vivre dans la relation avec Dieu. Mais la vision, c'est « pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ?» Voyez, on se pose la question du « pourquoi ?» Pourquoi dans le sens « pourquoi je fais ce que je fais ?» Pourquoi je suis engagé dans ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais le travail que je fais ? Est-ce que je le fais juste comme un gagne-pain, parce que ça paye bien ? Ou parce que j'ai besoin de trouver du boulot pour nourrir ma famille ou pour me nourrir moi-même, ou alors est-ce que je le fais parce qu'il y a quelque chose qui est en moi ? Et quand on ne sait pas et quand on n'a pas une vision claire, eh bien on n'avance pas dans la vie, on ne progresse pas. Moi, pendant des années, je n'avais pas de vision par rapport à ma propre vie. Lorsque j'étais adolescent, j'ai fait un apprentissage de pâtissier, après j'ai fait plein de choses, et je ne savais pas quoi faire de ma vie, vous comprenez ? Et donc, je faisais des choses, ça m'aidait, mais je n'étais pas satisfait. Et ce qui me manquait, c'était le pourquoi. Pourquoi je suis sur terre et à quoi est-ce que Dieu m'appelle et c'est quoi la vision de ma vie ? Et c'est le jour où j'ai trouvé la foi qu'en même temps que j'ai trouvé la foi, j'ai trouvé un sens à ma vie. Et en trouvant un sens à ma vie, j'ai découvert aussi progressivement la vision que Dieu avait prévue pour moi. Alors bien sûr, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas précis. Servir Dieu, ce n'est pas très précis, c'est large. Mais progressivement, en m'engageant dans certaines voies, eh bien, les choses ont commencé à se préciser et la vision, ce que je ressentais dans mon cœur, a pu être aussi ensuite confortée par d'autres personnes qui étaient là, qui étaient présentes. La vision, se concentrer d'abord sur le pourquoi sur la vision et non pas sur les moyens. Je vous donne quelques exemples. J'ai mon ami Daniel Nassa, qui est évangéliste avec notre association, qui travaille au Burkina. Et lui, sa vision, c'est d'évangéliser. Et d'évangéliser en particulier au Burkina et en plein air et aussi autour. Alors ça, c'est une vision qui est trop large. Ça me fait penser un petit peu à ce pasteur qu'un jour j'ai rencontré quand j'étais dans une église aussi, quelque part en Afrique. Alors il avait une église qui était complètement perdue en brousse. Vous savez, vous faites des kilomètres et des kilomètres, vous n'avez pas de village, vous n'avez rien du tout, et puis tout d'un coup vous arrivez, tu connais ça papa, hein, il y a une église là qui est plantée, tu te dis mais est-ce qu'il y a des gens là-dedans ? Et puis effectivement tu arrives, tu as 200, tu as 300 personnes qui sont présentes, et puis le pasteur à la fin il me donne sa carte. Et sur sa carte, c'est marqué, je ne sais plus exactement, pasteur, machin. Et la vision, c'était évangéliser, tu vois, le pays, enseigner, et puis évangéliser toute l'Afrique et le monde entier. Alors moi, je regarde que ça, tu vois, je lui ai rien dit, quoi. Dans ma tête, je rigolais, je me dis, bah, mon Dieu, lui, ça, c'est de la vision, quoi. Hein. Je pense que sa vision aurait besoin d'être précisée, quoi, surtout vu l'endroit où il se trouve. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, ce gars-là, il a compris quelque chose. Il est peut-être dans un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas de moyens, mais cet homme, il a une vision. Il sait où il va. C'est peut-être trop large pour l'instant et il va falloir que le Seigneur le recadre et il va comprendre certaines choses, mais au moins où il sait où il va. Et ça m'a fait penser à des personnes parfois avec qui je travaille et qui me parlent tout le temps des moyens et qui me disent « il faut ci, il faut ci, il faut ça, il faut ça ». Et ces personnes pensent que quand les moyens sont là, la vision va s'accomplir. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur ne commence jamais par les moyens, il commence toujours par la vision et après il donne les moyens. En réalité, les moyens ne sont jamais un problème. Parce que si Dieu vous appelle à faire quelque chose, même si, et souvent c'est au-delà de nos forces, et souvent c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, et même si c'est, ça demande des moyens extraordinaires, que vous n'avez, colossaux, que vous n'avez absolument pas, si Dieu donne la vision, il pourvoira, il placera aussi progressivement les personnes qui sont là pour accomplir ce qu'il vous a mis et ce qu'il nous a mis à cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors pour revenir à mon ami Daniel, je disais tout à l'heure, eh bien Daniel, il a précisé sa vision, et sa vision, c'est évangéliser les endroits du Burkina Faso qui sont peu évangélisés. Et ce faisant aussi, encourager des petites églises locales qui n'ont pas l'habitude d'avoir des évangélistes qui viennent. Vous voyez, ça c'est sa vision. Pourquoi ? Parce qu'il veut sortir des grands centres urbains qui sont surévangélisés, où les gens, ils ont tout le temps, où ils n'arrêtent pas d'entendre l'évangile et ce sont toujours les mêmes qui s'avancent, mais il veut que ce soit d'autres personnes qui puissent entendre l'évangile. Et donc, les moyens vont venir après. Alors, parfois, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois, on travaille, comme on l'a fait la dernière fois, avec de tout petits moyens, mais ça ne fait rien. Il y a la vision qui est là. La vision, ça va être, comme mon collègue Manu Renard à Paris, c'est sa vision dans son église, c'est l'église, c'est une famille qui grandit. Donc il y a deux idées qui sont là. Première idée, c'est que l'église, c'est une famille. Et deuxième idée, c'est que cette famille, elle doit grandir. On veut des enfants, j'allais dire des gosses, des enfants, hein, tu vois. Des enfants spirituels, bien sûr, hein. On s'est compris. Donc la vision, c'est cela. Et ensuite, les moyens, eh bien, les moyens vont se mettre en place progressivement. Mais on ne met pas les moyens en place, et ensuite la vision. C'est ce que Yonggi Cho aussi, si vous connaissez un petit peu en Corée du Sud, maintenant il est au soir de sa vie, a vécu. Yonggi Cho, lorsqu'il a commencé avec sa belle-mère qui était pasteur, c'est d'ailleurs sa belle-mère qui l'a encouragé dans le ministère, qui a été là, et heureusement qu'elle a été là, sinon il n'aurait pas eu le ministère qu'il a eu et qu'il a encore aujourd'hui. Eh bien, quand il a commencé son ministère avec sa belle-mère qui était pasteur, il y avait quelques dizaines de personnes. Et très rapidement, le Seigneur lui a donné une vision d'atteindre une grande partie de la Corée et d'avoir une église qui se développe. Et ensuite, il lui a donné les moyens. Et les moyens pour réaliser cela, c'était quoi ? C'était les groupes de maisons. Et suite à cela, effectivement, aujourd'hui, c'est une église qui compte, disent-ils, 800 000 membres, répartis dans plus de 50 000 groupes de maisons. Et suite à cela, il y a plein de chrétiens dans le monde entier qui ont vu les groupes de maisons. Et ils se sont tous concentrés là-dessus. Et ils ont dit, on va reproduire cela. On va prendre les maisons et on va faire ça dans notre église. Et notre église, grâce à cela, va connaître une croissance. Et il y en a beaucoup qui ont été déçus de cela, qui n'ont connu aucune croissance, si ce n'est le bénéfice de pouvoir se retrouver ensemble et de pouvoir s'encourager. Et ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ça, c'était le moyen. Dieu leur a donné ça à eux. Mais à quelqu'un d'autre, il va donner pour pouvoir réaliser les choses. Alors, une idée ou une pensée encore que j'aimerais apporter par rapport à cette question de la vision, c'est le fait aussi que lorsque Dieu nous donne une vision, cela implique aussi que progressivement, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que personne n'aime, n'est-ce pas ? Personne n'aime sortir de sa zone de confort, à commencer par moi. On aime bien son train-train quotidien, on aime bien ses habitudes, on aime bien savoir où sont les couteaux, les fourchettes, les assiettes, on aime bien savoir où sont les clés de la voiture, on aime bien maîtriser les choses, et c'est normal, on a besoin de cela. Mais plusieurs spécialistes en leadership vous disent, la seule manière de pouvoir grandir dans sa capacité à influencer les autres, c'est non seulement de répondre à la vision que le Seigneur nous donne, à ce qu'il met dans nos cœurs, sachant qu'on peut avoir plusieurs visions, une vision pour la famille, une vision pour l'Église, etc. Mais la seule manière de pouvoir grandir, c'est de sortir de notre zone de confort. Autrement dit, de faire des choses que nous avons peur de faire. On a peur de se lancer pour cela. Est-ce que vous pensez que Moïse était heureux quand il a reçu la vision du Seigneur ? Il sentait les choses en lui, cette vision qu'il avait reçue auparavant était morte, et là le Seigneur lui parle. Et la première chose qu'il va dire au Seigneur, il va lui parler des moyens, quoi. Il va dire, mais comment est-ce que je veux faire, moi? Je suis un homme qui a des difficultés à parler, à m'exprimer, etc. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va le travailler au corps, dans son esprit, dans son âme, jusqu'à ce qu'il le convainque, et Dieu réussit toujours. Et ensuite, il va lui donner les moyens. Il va lui donner les miracles, mais il va lui donner aussi Aaron qui va l'accompagner. Moïse a dû apprendre à sortir de sa zone de confort. Souvent, nous nous imaginons Moïse qui vient avec son bâton, qui frappe les eaux, et puis les eaux s'ouvrent, et on pense que Moïse a fait ça avec une telle facilité. Et on se dit, quel homme extraordinaire. Mais d'où est-ce qu'il est venu, cet homme-là? Jusqu'au jour où il a pris son bâton avec autorité, où il frappe les eaux, et il sait que les eaux vont s'ouvrir, que Dieu va répondre à sa parole, parce qu'il a la pensée de Dieu, entre ce moment-là et le moment où il a commencé, c'est plus du tout le même homme. C'est un homme qui va changer. C'est dans la relation avec Dieu, en faisant des pas de foi. Retenez ceci, c'est en sortant progressivement de notre zone de confort, des choses qui nous font peur, en faisant des petits pas, en faisant des pas de foi, que nous grandissons dans notre capacité de leadership. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça, dessus du jour au lendemain. Que ce soit ceux qui nous dirigent dans notre gouvernement, que ce soit des chefs d'entreprise influence, ou que ce soit dans l'Église, ceux que nous voyons, ceux que nous admirons parfois, ne sont pas devenus ces personnes-là, ou ces femmes-là, ou ces hommes-là du jour au lendemain. Ce sont des personnes qui ont dû apprendre, qui ont dû souffrir, qui ont dû faire des pas de foi qui leur ont coûté. Coûté du temps, coûté de l'argent, coûté parfois même de leur réputation, pour s'engager là où le Seigneur voulait les emmener. Donc, il faut toujours à un moment donné sortir collectivement, individuellement, de sa zone de confort pour que la vision se réalise. Mais dans tout ce processus, Dieu est bon, Dieu est patient et Dieu nous accompagne. Mais les pas de foi, c'est jamais Dieu qui les faisons, ou qui le fait, pardon. Les pas de foi, c'est toujours nous qui allons les faire. Deuxième leçon en matière de leadership que Moïse découvre, c'est celle que son beau-père va lui suggérer, à savoir la délégation. Premier point, la vision. Deuxième point, la délégation. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais Moïse est à la tête de 600 000 personnes. 600 000 hommes, pardon. Vous rajoutez la femme. J'allais dire les femmes, non, c'était la femme. Hein. Vous rajoutez les enfants. Ça fait du monde, hein. Les spécialistes estiment qu'il y avait au moins 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, c'est un peu plus que l'Alsace, la population d'Alsace. Et Moïse gérait tout seul. Vous imaginez un peu? Déjà dans une église, quand on a 2-3 anciens, c'est pas évident et parfois on croule sous la charge, hein, entre les doléances des uns et des autres. Il y a mon voisin qui m'embête avec ça, il y a l'autre qui allait faire un sacrifice, il a laissé traîner ses boyaux ici, ou hein, l'autre il a fait ceci, l'autre il a fait ça, avec des petits problèmes et des gros problèmes, en plus avec un peuple, nous est-il dit, de râleurs. Un peu comme les Français, quoi. Hein. Moi, les Alsaciens sont un peu plus disciplinés parfois. Imaginez, du matin au soir, et son beau-père vient le voir et il voit ce qu'il vit. Normalement, Moïse, en homme normal, il n'aurait jamais tenu. Mais il y avait une telle onction, il avait l'Esprit Saint qui était tellement puissant sur lui qu'il était capable de faire cela. Mais même avec la puissance de l'Esprit, Jéthro, qui au niveau Saint-Esprit n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde, discerne que même avec la présence et la puissance de Dieu dans sa vie, ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'il s'y prenne différemment et c'est pour cela que Jéthro va lui dire « Eh bien, la chose est au-dessus de tes forces, Exode 18-18, tu ne pourras pas y suffire seul. » Et là, il va lui enseigner un principe essentiel dans le leadership qu'aujourd'hui vous apprenez dans toutes les écoles de management et autres, à savoir le principe de la délégation. John Maxwell, spécialiste du leadership, dit ceci: malgré toute notre admiration pour les performances solitaires, en réalité, aucun individu isolé n'a jamais rien accompli de grand. Croire qu'une personne seule peut réaliser de grands exploits est un mythe. Même Robinson n'était pas seul,
il avait vendredi avec lui. Eh oui. Alors ça, c'est difficile, quoi. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que notre tendance naturelle, c'est de vouloir tout décider, de vouloir faire les choses nous-mêmes, de penser que si nous faisons les choses nous-mêmes, ce sera mieux fait, ce sera plus efficace. Et quand nous faisons tout nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je connais plein de leaders chrétiens qui sont dans des situations de burn-out, ou des chrétiens dans des églises qui parfois n'en peuvent plus, quoi. Quand vous voyez leur tête, ça se voit à 10 km qu'il est grand temps d'appuyer sur le frein, de tirer le frein à main, et puis de faire un break. Parce que c'est plus l'évangile, quoi. Les gens, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont éreintés, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, alors soit parce qu'ils ne sont pas secondés, soit parce que y a certaines choses qui parfois nous échappent ou on n'est pas assez vigilant. Et donc, une des clés que le Seigneur donne ici à Moïse, via Jéthro, c'est justement de déléguer. Alors, je lisais un article dernièrement qui parlait de la délégation et qui insistait sur deux choses, à savoir que si parfois nous avons des difficultés à déléguer, c'est à cause de deux raisons. D'abord, le premier problème, c'est notre ego. Et derrière l'ego, il y a souvent l'orgueil. Moi, je sais, et les autres ne savent pas. Et donc là, il va falloir se repentir. Et puis, l'autre problème qui est aussi très fréquent, c'est l'insécurité. On a peur. On a peur de laisser la possibilité aux autres de faire. Et on est insécurisé. Et étant donné que nous sommes insécurisés nous-mêmes, nous allons aussi insécuriser les autres ou le retransmettre aux autres. Et par conséquent, ça va se ressentir dans notre leadership. Et pour aider à déléguer, j'ai trouvé deux conseils ou deux clés qui sont toujours valables pour nous autres. Première clé, notez-la, vous êtes toujours avec moi ? C'est de s'entourer des bonnes personnes, de bien choisir ses coéquipiers. Exode 18, verset 21, « Pour le reste, choisis des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres et ennemis de la cupidité. » Tiens, ça fait penser à recommandations de Paul dans les épîtres pastorales pour choisir des anciens. On retrouve exactement la même pensée. Autrement dit, ce qui nous est dit là, c'est que le leader est invité à déléguer, mais pas à déléguer à n'importe qui. C'est pas du style « Salut, pisomme, comment ça va ?» On a besoin de 5 personnes. Alors, s'il s'agit de 5 personnes pour ranger la salle, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir un appel particulier, tout le monde peut faire ça. Mais on aurait besoin de 5 personnes, par exemple, pour le conseil pastoral, ou alors 5 personnes pour être présentes dans telle association. Qui veut se lancer ? Ok, Christine, ok, allez, c'est bon, on y va, tu vois. C'est pas la bonne franquette, quoi. On va choisir des personnes, selon certains critères. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les critères qui sont mentionnés ici, il est parlé d'être capable, mais tous les autres termes qui sont utilisés parlent en réalité de l'être de la personne. Parle de la spiritualité de la personne, des personnes qui sont intègres, des personnes qui ont une vie spirituelle, des personnes à qui Dieu a donné une portion, à qui Dieu a donné quelque chose. Peut-être que ça n'a pas encore émergé ou qu'on ne le voit pas beaucoup, mais Dieu leur a donné quelque chose. Autrement dit, le texte insiste non pas tant sur les capacités, mais plus sur l'être de la personne, ce qu'elle a reçu, la vie spirituelle qu'elle a. C'est beaucoup plus important que les capacités, parce que les capacités, elles sont aussi importantes, mais on peut toujours acquérir certaines choses en chemin. Et le texte souligne ici l'importance de bien choisir des personnes non pas avec qui pourront être de bons collaborateurs, des personnes aussi qui vont être spirituelles, enseignables, qui vont manifester l'amour, avec qui on va pouvoir travailler ensemble dans la même vision. Voyez ? C'est super important, quoi, parce que sinon, tôt ou tard, il y a des divisions qui risquent de se manifester, déjà qu'il y aura assez avec les différents problèmes à gérer. Donc la première clé, c'est cela, s'entourer des bonnes personnes. Et puis la deuxième clé que Jéthro donne à Moïse, c'est au verset 22. « Ils jugeront le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront, mais ce qui en a moins, ils le jugeront eux-mêmes. » S'entourer des bonnes personnes. Et le deuxième principe que je tire du verset 22 que je viens de vous lire, c'est leur accorder notre confiance. Autrement dit, leur donner du pouvoir. Ah !
Ça, c'est quelque chose, hein ? Donner du pouvoir à l'autre. Est-ce que nous arrivons à le faire ? Il y en a qui disent « je te choisis » ou « tu viens avec nous » et puis on ne donne pas du pouvoir aux personnes. On est toujours en train de les fliquer, de regarder ce qu'ils font. Et ce faisant, leur leadership ne va pas pouvoir se développer. Donner du pouvoir, c'est quoi ? Moi, j'ai un de mes amis, et je l'admire vraiment pour ça, je ne vais pas dire qui c'est, mais un de mes amis, alors lui, c'est le champion pour déléguer et c'est le champion pour donner du pouvoir aux gens. Il a une capacité à trouver des leaders, des personnes, même parfois je me dis, lui, c'est, à mon avis, il se plante, quoi. Et 2 ans après, l'expérience montre qu'il ne s'est pas planté en choisissant cette personne, absolument pas. Au contraire, le leader qui est en lui s'est révélé. Et lui, il a une capacité à donner, à déléguer aux gens. Il leur dit, écoute, voilà, je te confie ça, ça, ça et ça. Et il donne le pouvoir aux personnes. Et il les laisse faire totalement. Parfois même, ça peut être angoissant pour les personnes parce qu'elles se retrouvent toutes seules à gérer, à monter leur propre équipe et il les laisse faire. Et puis ensuite, on verra le résultat. Il reste simplement disponible si elles ont une question, si elles ont un problème, si y a un besoin particulier, mais elle les laisse faire. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe ? C'est extraordinaire. En procédant ainsi, eh bien, les personnes vont se révéler. Tout d'un coup, elles vont émerger. Elles vont devoir trouver des solutions et le potentiel de leadership qui est en elles va commencer à se développer. Et c'est comme ça qu'il va trouver encore de nouveaux leaders et il va pouvoir les aider aussi. Et ce faisant, ça permet de démultiplier l'impact. C'est extraordinaire. D'où l'importance, dès le départ, d'avoir des personnes qui sont capables et qui soient spirituelles, qui soient dans la même vision, qui aillent dans la même direction. Il y aura encore bien des choses à dire, mais je termine avec le troisième et court dernier point, qui est troisième leçon en matière de leadership que Moïse va découvrir ici au travers de l'exemple de son beau-père, c'est le fait d'écouter les autres. En particulier, comme je l'ai noté ici, les mentors, je vous explique quelques instants, où je reviens sur une notion que j'avais développée la fois dernière. Je me suis posé la question, mais que serait-il advenu de Moïse s'il n'avait pas écouté son beau-père ? Que se serait-il passé ? On n'en sait rien, puisque le texte biblique n'envisage pas cette possibilité. Mais nous, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait advenu de Moïse ? Moïse aurait très bien pu dire, hey, « Hé, beau-père, ok. Hein ? Hé, mec, t'es pas dans le peuple d'Israël, quoi. » Bon, il ne parlait pas comme ça à l'époque. Hein ? C'est respect pour le beau-père. Mais bon, il aurait très bien pu dire, « Mais écoute, hey, je suis le médiateur de l'ancienne alliance, là. Hein. Je suis celui que le Seigneur a choisi. Je suis rempli du Saint-Esprit, quoi. Plein, quoi, full. Toi, Saint-Esprit, avec tes petites divinités, là. OK ? Il aurait très bien pu lui dire, lâche-moi, quoi. Je sais exactement ce que je fais. Hé, hey, qui les a fait sortir, là ? C'est qui les a fait sortir, là ? C'est moi, bien sûr, conduit par le Seigneur. Moïse était un homme qui était sage. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Non pas doux dans le sens de mièvre, de mielleux, doux dans le sens comme le Christ, quoi. Un homme fort, un homme sage, un homme intelligent, un homme puissant à l'intérieur. Moïse a su discerner au travers de l'interpellation de son beau-père la voix de Dieu. Il a su discerner que là, il avait quelque chose à retenir, à apprendre de ce qu'il était en train de lui dire et de s'inspirer de cela. Et Moïse va s'inspirer de cela. Et on le voit que par la suite, tout va être conduit ou tout va être dirigé dans le peuple d'Israël avec toute cette hiérarchie qui est là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Moïse va pouvoir être soulagé dans la tâche parce qu'il a délégué et tout simplement, ben, voilà, parce qu'à la base, il a écouté. Et de là, j'en déduis la chose suivante, à savoir que pour nous aussi, dans notre leadership personnel, que ce soit si je suis à l'école du dimanche, si je suis dans l'enseignement, si je suis dans ceci ou dans cela, c'est important aussi de savoir écouter les autres. Écouter les autres, ça ne veut pas dire « je fais ce que les autres me disent de faire ». Parce qu'on ne peut pas faire tout ce que les uns et les autres disent. Sinon, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes et vous allez tirer dans tous les sens et ça ne va pas fonctionner. Mais savoir entendre ce qui est dit. Comme dit mon mentor, celui qui ne se laisse rien dire n'a rien à dire. Celui qui ne se laisse rien dire n'a rien à dire. Si on n'est pas capable d'entendre quelque chose, eh bien, on se plante. On va droit dans le mur et on l'a vu. Et l'histoire nous montre des hommes, des femmes qui se sont totalement plantés, qui étaient super doués, qui avaient une capacité de leadership extraordinaire, mais qui ne savaient pas écouter les autres et ça a causé leur perte. Alors vous allez me dire, qui faut-il écouter ? Eh bien déjà, nous allons écouter nos mentors, si nous en avons, c'est-à-dire quelqu'un qui nous accompagne spirituellement et qui nous aide. Ça ne veut pas dire que le mentor décide à notre place, mais il nous pose des questions qui nous font réfléchir sur nous-mêmes et sur notre capacité à influencer les autres. Et puis, si nous sommes dans un groupe, etc., eh bien on se laisse interpeller les uns par les autres, tout simplement. Et on essaye de voir un petit peu, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de nous parler ou veut pas nous orienter vers un aspect particulier ou spécifique. Je termine et je résume un petit peu ces trois points que j'ai soulignés ce matin, à savoir avec ce thème que j'ai essayé de développer, trois leçons à retenir du leadership de Moïse. La première leçon, avons-nous dit, c'est l'importance, la nécessité d'avoir une vision, de savoir où nous allons. Et de régulièrement prendre le temps et de se poser et de se dire, est-ce que je suis encore dans ma vision ? Est-ce que je ne suis pas en train de dévier ? Et de se poser la question à tous les niveaux, pour l'enseignement des enfants, pour l'enseignement général, pour l'évangélisation, c'est quoi la vision ? Évangéliser, c'est beaucoup trop large. Il faut que ce soit quelque chose de plus précis. Et de ne pas confondre dans la vision avec les moyens. Les moyens ne sont que là pour accomplir la vision. Et si je me focalise sur les moyens et que je ne pense pas à la vision, eh bien, en réalité, je brasse de l'air. Je dépense énormément d'énergie et je me fatigue pour très très peu. Alors que quand je suis dans ce que Dieu veut, ça va être 10 fois plus efficace. Deuxième point, avons-nous dit, premier c'était la vision. Deuxième point, c'était le principe de déléguer, de voir à qui dans le groupe ou les gens avec qui je travaille, je peux déléguer, confier progressivement de l'autorité et du pouvoir, tout en étant présent pour pouvoir les accompagner, mais en leur faisant pleinement et totalement confiance et en leur donnant la possibilité de se planter. Et oui, puisque c'est seulement comme ça qu'on apprend. Et puis le troisième point, eh bien, c'est de savoir écouter. Trois verbes donc, le premier c'est pas un verbe, mais avoir une vision, dirons-nous plutôt pour avoir un verbe, déléguer et écouter. Nous prions. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses rester proche de ton cœur afin de pouvoir donner jusqu'à présent, que ce soit au niveau personnel, au niveau des sphères où nous évoluons les uns et les autres, ont de l'influence. Et nous voulons te prier, Seigneur, aussi pour que tu nous... Oui, donne de pouvoir rester proche de toi pour discerner aussi quelle est et puis Seigneur, nous voulons te prier aussi pour que tu nous donnes de pouvoir grandir dans notre capacité à influencer les autres en sachant déléguer et en sachant aussi, Seigneur, écouter, en nous laissant, oui, interpellé, Seigneur, par ce qui peut être dit parfois par les uns et les autres. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint nous accompagne en tant que communauté et aussi en tant qu'individu et dans les différentes sphères où tu nous as placés pour pouvoir exercer de l'influence positive et bénéfique et aimante sur les autres. Merci parce que tu l'as déjà fait et parce que tu veux nous permettre aussi de faire de nouveaux pas de foi, chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.